Naya Wateu a fait ce matin son entrée au gouvernement en remplacement de Thierry Santa. La réunion en cours doit permettre d'ajuster la répartition des secteurs. Le bras de fer entre la DEC et les institutions. Isabelle Champmoreau, en charge de l'enseignement au gouvernement, écrit au directeur de l'enseignement catholique. Elle lui demande de rouvrir les cantines. Le retour du salon Prestige en fin de semaine à l'Amirauté. Ce sera vendredi et samedi. Présentation dans ce journal. Cécile Kohler et Jacques Paris, enfin libres. Les deux ressortissants français condamnés pour espionnage et emprisonnés en Iran ont été libérés après le versement d'une caution. Ils sont en sécurité à l'ambassade de France. L'ouverture d'un magasin Shein en métropole la nuit prochaine, en pleine tourmente sur la vente de poupées à caractère pédopornographique, provoque aussi des réticences dans le monde de l'habillement. Et puis le sport et du football, première défaite du PSG en Ligue des Champions, défaite 2-1 face au Bayern de Munich. Et en plus, le PSG a perdu Hakimi et Dembélé sortis sur blessure. Bonjour à tous et bienvenue dans ce journal. Une réunion hebdomadaire du gouvernement un peu particulière ce matin, après la démission de Thierry Santa samedi dernier. Sa remplaçante Naya Wateu participe en effet à sa première séance au sein du 18e gouvernement, présidé par Alcide Ponga. Naya Wateu, écoutez-la ce matin à quelques minutes avant l'ouverture de cette réunion hebdomadaire.
C'est une expérience complémentaire que j'entends assumer avec humilité, mais avec beaucoup de responsabilité aussi, afin de pouvoir être au plus près des préoccupations des Calédoniens dans un contexte qui reste particulier sur le plan économique et avec cette volonté de pouvoir engager une reconstruction. Je me considère comme étant une élue attachée au terrain et à mon sens, c'est essentiel de pouvoir garder ce lien avec les Calédoniennes et les Calédoniens, avoir un discours qui soit celui de la réalité, même si elle peut être parfois difficile à entendre, mais avec toujours cette volonté de pouvoir trouver des solutions et faire en sorte qu'ensemble nous puissions passer cette épreuve difficile. Je tiens à rester une élue responsable, ancrée dans la réalité et de faire en sorte de pouvoir entendre, mais aussi d'expliquer la réalité dans laquelle on se trouve aujourd'hui.
Et lors de cette séance du gouvernement qui est toujours en cours, l'attribution des secteurs dont Naya Wateu aura la charge est en cours de discussion. Naya Wateu pourrait être en charge notamment de la fonction publique, mais aussi du secteur du handicap et de la dépendance. Venons-en au dossier de la DEC à laquelle Isabelle Champmoreau demande de rouvrir les cantines. La membre du gouvernement en charge de l'enseignement a en effet adressé une lettre au directeur de la DEC, Nicolas Legrand.
Oui, un courrier de 3 pages en date d'hier, très détaillé. Elle rappelle son engagement lors de nombreuses réunions de travail et enjoint le directeur de la DEC à plus de modération dans ses propos et à davantage de responsabilité vis-à-vis des élèves, des familles et des personnels. Je cite, « Les familles et les enfants calédoniens ne peuvent pas être plus longtemps les victimes de cette situation », écrit Isabelle Champmoreau, qui poursuit en reconnaissant que des difficultés existent, mais qu'elles ne peuvent justifier des accusations de manque d'intérêt et d'inaction de la part des responsables politiques. La membre du gouvernement rappelle en effet que la Nouvelle-Calédonie et l'État ont versé 16 milliards 350 millions de francs en 2025 aux enseignements privés. Isabelle Champmoreau, qui s'étonne d'ailleurs du principe de fermeture prolongée des cantines, alors que les personnels concernés sont rémunérés et que les approvisionnements de denrées alimentaires sont déjà effectifs. Elle indique par ailleurs que les cantines des lycées ne peuvent être affectées par des fermetures puisque la Nouvelle-Calédonie a versé sa contribution. Elle annonce donc que les jours de fermeture seront comptabilisés et feront l'objet d'une demande de remboursement des sommes versées par l'institution. Sur notre antenne déjà lundi, Gilles Brial, le deuxième vice-président de la province Sud, avait annoncé la même chose pour les collèges de la province. Isabelle Champmoreau qui demande donc de manière officielle et solennelle de procéder à une réouverture de toutes les cantines de la DEC. La contribution pour les lycées et les collèges ayant d'ores et déjà été versée et que celle des écoles est en voie d'être compensée en partie par l'aide votée par le Congrès la semaine dernière. Un arrêté sera d'ailleurs présenté en séance du gouvernement le 12 novembre afin de permettre le versement de 50% de cette contribution. Ensuite, des réunions seront organisées pour réviser la délibération 360 qui cadre le financement des enseignements privés ou encore du sujet de la carte scolaire. Et enfin, l'audit financé par la Nouvelle-Calédonie sur le fonctionnement de la DEC sera réalisé par un cabinet indépendant.
Isabelle Champmoreau demande donc la réouverture des cantines pour mettre fin à une situation qui est également vivement critiquée par les parents d'élèves.
Oui, depuis lundi, ils doivent s'organiser pour nourrir leurs enfants à midi, mais aussi les surveiller puisqu'ils ne peuvent pas être accueillis dans les établissements scolaires. Sylvain Once, le président de la FCPE, nous a fait part de l'incompréhension des familles ce matin. Il était notre invité à 7h30.
Il est important aujourd'hui que la DEC comprenne qu'ils ne peuvent pas pénaliser les parents comme ça, ni les enfants. C'est écœurant d'entendre de supprimer des repas aux élèves. Et donc, il y a des petits quand même qui ont besoin de manger, et là, ils n'ont rien. Quoi. Si les parents n'ont pas les moyens ou s'ils n'ont pas les moyens, le temps de se déplacer, les gamins ne mangent rien. Je veux dire, ce n'est pas normal. C'est difficile. difficile de s'organiser, ils font comme ils peuvent et il faut qu'ils préparent le repas, il faut qu'ils aillent le donner aux enfants. Donc c'est très compliqué pour eux parce qu'ils restent avec leur enfant à midi. Parce que le gamin, il est dehors. Je veux dire, c'est là le souci. Il n'y a même pas de possibilité d'accueil à l'intérieur de l'établissement pour les faire manger, quoi. Je veux dire, dehors. Dans l'espace public, et là, avec tous les risques que ça comporte. C'est ça que les parents, aujourd'hui, ne comprennent pas. Et la question qui revient plus souvent, où est passé l'argent, quoi ?
De son côté, la Fédération des associations de parents d'élèves a demandé à rencontrer le directeur de l'ADEC, Manuel Van Arscott, mais n'a pas eu de retour. Marguerite Iwa est la vice-présidente de la FAPEP, et elle regrette cette situation.
On trouve inadmissible, déjà, que le fait qu'on met au pied du mur les parents d'élèves par rapport à nos enfants qui prennent la cantine, et sur des sujets de paiement qu'aurait pu traiter l'ADEC avec des institutions et non pénaliser nos enfants. Moi, à mon avis, on aurait pu trouver d'autres solutions. Il y a des institutions qui doivent verser de l'argent, mais c'est pas du ressort des parents d'élèves à payer pour nos enfants. On paye déjà assez cher à être inscrit dans les établissements scolaires de l'ADEC. Je vois pas pourquoi on va pénaliser nos enfants. C'est très compliqué pour les parents parce que il y a les parents qui travaillent, ils sont obligés de négocier avec leurs employeurs pour justement sortir, aller prendre un petit déjeuner des enfants et rester avec eux le temps qu'ils reprennent l'école. Ça peut être accepté une fois, deux fois, mais pas tout le temps. Ça va être la population qui va être pénalisée, tout au moins pour l'ADEC, hein.
Et vendredi dernier, lors d'un point presse, l'UGPE avait déclaré soutenir l'ADEC, mais ne pas comprendre non plus qu'un travail coordonné ne soit pas mis en place avec les parents d'élèves impactés par ces décisions.
Radio Rythme Bleu, opinion.
C'est donc l'heure de votre rendez-vous SMS sur Radio Rythme Bleu. La réponse à notre question d'hier est 92% des auditeurs de Radio Rythme Bleu qui se sont exprimés par SMS pensent que l'ADEC a tort de suspendre son service de cantine malgré les 300 millions accordés par le Congrès à l'enseignement privé. Ils sont 8% à penser que l'ADEC a raison. Et puis voici notre question du jour. Faut-il tout faire selon vous pour sauver la maison de la Nouvelle-Calédonie à Paris ? Si vous pensez que oui, vous tapez 1. Si vous pensez que non, vous tapez 2 et vous envoyez votre réponse au 3146. Avant la première pause de ce journal, signalons que deux mineurs de 15 et 16 ans ont été interpellés ce matin par la police. Ils sont placés en garde à vue après un incendie qui a touché le plexus à Ducos. Déjà détruit lors des émeutes en 2024, le bâtiment a été ciblé par 3 départs de feu distincts au premier étage. Le sinistre a pu être maîtrisé par les pompiers rapidement. Une enquête a été ouverte. 11h38, la première pause de ce journal dans un instant. Nous poursuivons l'actualité en Nouvelle-Calédonie.
Toute l'info en 3 lettres, RRB.
Tu rêves d'aventure cet été ? Avec les canettes Nescafé glacées, tente ta chance !
À gagner, une plate 40 chevaux, un paddle, un kayak ou encore un kit de pêche ou de plongée.
Jouez jusqu'au 31 décembre en achetant 2 canettes Nescafé, notez vos coordonnées au dos du ticket, puis déposez-le en magasin ou rendez-vous sur jeunesle.nc. Et pour participer gratuitement, direction Nestlé.
Jeu sans obligation d'achat, règlement complet chez Maître Citrita, huissier à Nouméa.
Peugeot, Subaru, Citroën, Chevrolet, Isuzu et plein d'autres grandes marques automobiles vous donnent rendez-vous les 6, 7 et 8 novembre prochains pour le Salon du Village Automobile. Le Salon du Village Automobile, c'est l'événement auto de l'année. 11 grandes marques sur un seul site, un grand parc de véhicules d'occasion, des offres uniques jusqu'à 1 million de francs de remise et nos partenaires financiers pour simplifier vos projets. Ambiance festive, animation, jeux, surprises pour toute la famille et 700 000 francs de carburant à gagner. Ouvert de 7h30 à 18h, entrée gratuite. Le Salon du Village Automobile, c'est du 6 au 8 novembre au PK4 à Nouméa.
Offre valable dans la limite des stocks disponibles. Jeu gratuit sans obligation d'achat. Tirage au sort le 14 novembre. Valeur totale du lot 700 000 francs. Règlement disponible sur cph.nc ou chez Maître Citrita.
Construisons notre pays, économisons l'énergie.
RRB, 11h, 13h, Infomag, Jean-François Baudin.
La suite de l'actualité en Nouvelle-Calédonie est ce projet culinaire pour les conseillers municipaux juniors de Nouméa. En compagnie du chef Alphonse Coche et du prestataire de restauration Nurest, ces jeunes vont devoir élaborer un repas à base de produits locaux. Il sera servi fin novembre dans les cantines des écoles primaires publiques, Léana Colombo.
L'objectif vise à sensibiliser les jeunes à l'alimentation durable, à l'utilisation des produits locaux et à la valorisation du savoir-faire culinaire calédonien. Plusieurs séances de travail sont programmées pour les 7 CMJ de Nouméa qui participent à l'opération. Aujourd'hui, ils ont pu découvrir le menu qui sera proposé le 27 novembre prochain, mais ont aussi appris l'équilibre des aliments dans l'assiette, une manière ludique de changer les habitudes de ces jeunes gastronomes.
J'avais jamais fait un repas avec que des aliments de Nouvelle-Calédonie. Au début, il m'inspirait pas vraiment, mais après, je me suis rendu compte que c'était bien de goûter un peu de tout. C'est bien aussi de goûter les aliments qu'on n'aime pas avec des cuisines différentes.
Au début, je n'aimais pas trop les légumes, mais après, à la fin, j'ai bien aimé.
Moi, j'ai appris déjà comment manger équilibré, comme j'ai remarqué que je mangeais pas toutes les catégories dans une journée. Je mangeais beaucoup plus de féculents, par exemple, que de légumes. Il y a des fois, je faisais que des repas de pâtes.
J'aime pas trop les légumes et il y en a que j'aime pas trop. Les concombres, je les aime pas. Ça me fait découvrir des choses et ça m'éduque.
Ce menu conçu à base de produits locaux sera donc composé en entrée d'une salade de riz accompagnée de divers légumes et une vinaigrette au miel de marée, en plat d'un sauté de bœuf à l'ananas et un gratin aux trois légumes, courgettes, squash et citrouille, et en dessert un yaourt au coco, de quoi mettre en appétit plus d'une personne. Les CMJ seront supervisés durant toute la préparation par le chef calédonien Alphonse Cocci, très impliqué dans la transmission aux jeunes générations.
Participer à cette aventure, c'est vraiment très important. Parce qu'en fait, là, on travaille avec les enfants, directement avec Nures et la mairie. Le fait aussi d'intégrer les enfants, ils comprennent un peu que dans leurs assiettes à l'école, à la cantine, ils voient que ça sort d'où. Et on explique aussi c'est quel producteur, ça vient de quelle entreprise qui produit ce produit-là, pour qu'eux, ils puissent manger à la cantine. Et là, ils auront la chance aussi d'être avec nous la veille de leur cantine le lendemain. Donc, ils vont produire aussi avec nous. Et puis, le lendemain, bien sûr, ils vont être très content de voir leurs copains et copines et dire que hier j'étais avec les chefs à Nures, on a cuisiné ça. Donc c'est très important aussi pour les jeunes de participer à cette activité.
Le menu confectionné sera servi dans les cantines des écoles primaires publiques de Nouméa, Païta et Dumbéa, ce qui représente 9500 repas préparés le 26 novembre prochain et servis le lendemain.
Au chapitre nickel, depuis la semaine dernière, un minéralier à propulsion éolienne est sur le territoire et c'est une première en Calédonie. Un minéralier, Michael Juneski, affrété par la société MKM.
Le navire est doté d'équipements innovants pour réduire sa consommation en carburant. L'intérêt est double pour Mike Wawamin, réaliser des économies en fuel tout en faisant un pas de plus vers la décarbonation de la filière nickel. François Guetella est responsable de la batellerie du groupe MAI.
C'est un minéralier qui répond à des caractéristiques bien particulières puisqu'il est équipé de 4 éoliennes. Ce sont des éoliennes qui font 16 mètres de haut par 2 mètres de diamètre. L'avantage de ces éoliennes, c'est tout simplement déjà des économies d'énergie, des économies sur le fuel qui sont non négligeables. Il faut savoir que sur un trajet entre la Chine et Engo, ça a été une économie de plus de 100 tonnes de fuel, ce qui évite surtout un rejet dans l'atmosphère de CO2. À peu près 300 tonnes de rejet évités. Ces éoliennes agissent par des calculateurs électroniques en fonction du vent, de la vitesse du vent, de la direction du vent et permettent d'augmenter la poussée du minéralier en réduisant sa puissance sur ses moteurs.
L'Afros, c'est le nom de ce minéralier de 195 mètres de long, pouvant transporter 64 000 tonnes de minerais, peut réduire sa consommation de fuel de 15 à 25%. Plusieurs personnalités ont déjà visité ce navire, notamment en fin de semaine dernière le président du gouvernement Alcide Ponga ou encore le maire du Mont-d'Or, Elisabeth Rivière, puisque le minéralier est actuellement en BNGO. Tous ont salué la venue de ce type d'équipement en Calédonie. La société MKM souligne qu'elle s'inscrit dans cette volonté de faire appel aux technologies innovantes et moins polluantes. On retrouve François Guetella.
C'est un investissement supplémentaire parce que le coût est quand même supplémentaire. Mais dans le cadre du groupe MAI, c'est aujourd'hui d'aller sur la décarbonisation, comme le veut la nature, et d'éviter tous ces rejets. Tout le monde est satisfait, c'est quelque chose de très important. Vous savez, tout le monde sait ce qui se passe sur la planète. Non, c'est une première, et en espérant que ça se reproduise beaucoup. Il n'y a pas qu'au niveau des minéraliers. C'est le but de notre société, c'est d'aller de plus vers la décarbonisation. Ça passe aussi par les engins et les engins miniers. Dans le futur, regardez aujourd'hui les avantages que ça apporte et le nickel vert, si vous voulez. Ça fait partie de nos objectifs.
Voilà pour ces précisions de François Guetella, responsable de la batellerie pour la société MKM. Le chargement du minéralier à propulsion éolienne a débuté lundi dernier. Il devrait être finalisé d'ici demain. Le navire prendra la direction de la Chine dès que son chargement sera achevé.
Le salon Prestige fera son retour en fin de semaine sur le territoire. Ce sera vendredi et samedi à la Mirauté. Bonjour Bruno Aurelio.
Bonjour.
Vous êtes le responsable de Pacific Fair qui organise ce salon Prestige qui aura donc lieu à la fin de la semaine à la Mirauté. Alors, je disais, c'est un retour parce qu'il n'y a pas eu de salon Prestige l'année dernière. On comprend évidemment les raisons qui vous ont poussé à l'annuler. C'était le moment de relancer ce type de salon qui s'adresse à un public quand même un peu particulier.
Oui, c'est sûr qu'on va cibler un public CSP+, comme on dit dans le jargon. parce qu'on va présenter des produits et des services plutôt haut de gamme. Alors, je ne vous cache pas qu'on a dû réinventer un petit peu le salon, même si le concept reste le même. Comme disait en préambule de cette interview, c'est sûr qu'on ne va pas présenter des boutiques connues du grand public. On a décidé plutôt de privilégier plutôt des artisans qui travaillent des matériaux nobles, des matériaux précieux, pierres précieuses, du bois, de la photographie, des artistes, pour avoir un salon prestige plutôt dans l'air du temps, du moment.
C'est alors, salon prestige et esthétisme, si je comprends bien.
Oui, en fait, on...
Des beaux objets.
On a mélangé, si vous voulez, de l'artisanat d'art, de l'exposition. On aura des expos de peinture, de la photo, on aura du show en live. On aura des dégustations également. On a de beaux produits en Calédonie, que ce soit du poisson fumé, des huîtres, des crevettes. On aura les filochés de cerf. Voilà, je vous vois saliver. Tout ça pour dire ce qu'on on a
préféré. C'est un peu l'heure. Hein.
C'est l'heure, ceci dit. On a préféré mettre en avant vraiment des trésors du territoire avec des artistes et des artisans de talent que l'on a sur le territoire.
Et les artistes et artisans ont répondu en nombre à votre sollicitation ?
Oui, c'est sûr. Quand on a lancé le salon il y a quelques semaines, bon, on ne va pas refaire le point sur l'économie, on la connaît telle qu'elle est. Donc c'est sûr que très rapidement, on a préféré partir sur plutôt des plus petites structures, mais qui ont des produits... Voilà, qui a présenté à un public un peu averti. Et donc, on a eu la chance, surtout, d'avoir ce lieu, l'Amirauté.
J'allais vous poser la question.
L'Amirauté, oui. Donc le salon, ça, comme vous le disiez, depuis 2023, n'avait pas eu lieu. Et donc, on est très heureux de faire ce salon-là à l'Amirauté. C'est un lieu, je pense, les Nouméens, les Calédoniens dans son ensemble sont attachés. On l'a connu sous forme de restaurant, de bar. Après, la province l'a récupéré. Donc là, c'est une association, maintenant, qui gère ce bâtiment. Donc, on est très heureux de l'avoir.
Et c'est un lieu qui se prête vraiment à ce type de salon ?
Oui, encore hier, j'y étais pour préparer le salon. Quand on y rentre, c'est vrai qu'il y a de suite une atmosphère, que ce soit dans les jardins ou à l'intérieur de la bâtisse, la cour arrière. Donc là, le défi, c'était nous d'aménager un petit peu tout cet espace, que ce soit le côté un petit peu épicerie fine sous la halle, dans les jardins avec des artisanats d'art, dans la maison avec les expos, toute la partie joaillerie, le petit bar, l'espace auto qu'on aura. Donc on a vraiment essayé d'aménager tout l'espace au possible. Comme ça permettra également aux visiteurs, au-delà des stands et des animations qu'on va proposer, de visiter également la maison et ses jardins.
Alors Bruno Royaux, pour terminer, c'est donc vendredi et samedi, ce salon sur deux jours, les horaires, et c'est évidemment ouvert à tous ceux qui veulent venir, même si c'est juste pour regarder et admirer de belles choses.
Bien sûr, l'entrée est libre et entièrement gratuite. Les horaires, donc, c'est vendredi, samedi de 10h à 19h, et vous pouvez retrouver la liste des exposants ainsi que le programme d'animation sur notre page Facebook pacificfair.nc.
Bruno Royaux, merci beaucoup d'avoir été en direct avec nous.
Merci à vous.
On en vient à l'actualité dans la région. Les services de police et de douanes australiens ne relâchent pas la pression dans leur lutte contre le trafic de drogue. Ils viennent de mener une vaste opération qui a abouti à l'arrestation de 18 trafiquants et à la saisie de 270 kilos de drogue et de plusieurs armes. La correspondance de Jean-Pierre Zajac.
La police fédérale et celle du New South Wales ont établi qu'un réseau de criminels importait de vastes quantités de drogue par voie maritime en les dissimulant dans des cargaisons de chaussures et de matières plastiques. Tout récemment, les trafiquants ont ainsi fait entrer en Australie plus de 150 kg de pseudo-éphédrine, 95 kg de méthamphétamine ou ice, 20 kg de kétamine et environ 2 kg de cocaïne. Leur valeur à la revente a été estimée à une somme équivalente à environ 4 milliards de nos francs. Une trentaine de perquisitions ont aussi abouti à la découverte de 14 armes à feu et d'une somme d'argent en espèces d'un montant proche des 162 millions de nos francs. 18 membres d'un réseau de criminels ont également été arrêtés et inculpés pour trafic de stupéfiants. À Sydney, Jean-Pierre Zajac, RRB.
Il est 11h50, l'heure de marquer une nouvelle pause avant d'en venir dans un instant à l'actualité en métropole et dans le monde.
RRB, 11h-13h, Infomag, Jean-François Bodin.
Virus, bactéries, stress.
stop. Depuis 20 ans, le spray assainissant pur essentiel purifie l'air intérieur tout naturellement. À la maison, au travail, partout avec vous, faites confiance à la force de sa formule brevetée pour éliminer virus, bactéries et limiter les sources d'épidémie. 21 études scientifiques prouvent son efficacité et sa parfaite tolérance. Numéro 1 en pharmacie. Pur essentiel, 20 ans d'efficacité à l'état pur. En ce moment, 20 séjours exceptionnels à gagner à l'achat d'un spray assainissant 20 ans. Date et règlement sur puressentiel.com.
Préservez votre habitation contre les termites avec Formula 4D.
Traitement de charpente, piège préventif et barrière chimique.
Déductible de vos impôts. Info sur formula4d.com.
À vos côtés depuis 40 ans.
Toute l'info en trois lettres. RRB.
La suite d'Infomag avec l'actualité en métropole et dans le monde, on retrouve Jean-François Baudin.
La fin de plus de 1200 jours de galère pour Cécile Coller et Jacques Paris, les deux derniers otages français, condamnés respectivement à 10 ans et 6 ans de prison en Iran pour espionnage en mai 2022, sont sortis de la terrible prison d'Evine. Ils ont été libérés après le paiement d'une caution, ont indiqué les autorités iraniennes. Une libération saluée évidemment par les autorités françaises. Emmanuel Macron a fait part de son immense soulagement en parlant d'une première étape. Cécile Coller et Jacques Paris ne peuvent en effet pas pour l'instant quitter l'Iran, mais ils sont en sécurité à l'ambassade de France à Téhéran, a indiqué le ministre français des Affaires étrangères Jean-Noël Barrot, qui a donné de leurs nouvelles sur le plateau de France 2.
Ils vont bien, ils sont évidemment soulagés et ils semblent en bonne santé physique et morale. Ils sont entourés par l'équipe de l'ambassade et j'ai dépêché ce soir une équipe de renfort, un médecin, une agent du centre de crise et de soutien de mon ministère qui vont se mettre à leur disposition, à leur côté, pour les accompagner après cette épreuve, ce calvaire qu'ils ont traversé.
La libération de Cécile Coller et de Jacques Paris, c'est une bonne nouvelle, mais elle aura sans doute aussi une contrepartie. Paris pourrait en effet permettre à une ressortissante iranienne de rejoindre son pays. William Molinier pour Europe 1.
Il s'agit de Mahdieh Esfandiari, une iranienne interpellée le 28 février dernier à Villeurbanne, suspectée d'apologie des attentats du 7 octobre en Israël, provocation au terrorisme et injures racistes. Une enquête avait été ouverte il y a 2 ans au sujet de comptes signalés sur la messagerie cryptée Telegram. Parmi les autres suspects de cette affaire, l'idéologue antisémite Alain Soral. Mahdieh Esfandiari a été remise en liberté sous contrôle judiciaire il y a 2 semaines. Son procès est prévu à Paris en janvier prochain. Les autorités iraniennes s'étaient félicitées de cette libération qui était au cœur des tractations autour de Cécile Coller et Jacques Paris. Eux aussi ont vu récemment leur sort judiciaire s'accélérer puisqu'ils ont été condamnés mi-octobre à 10 ans et 6 ans de prison pour espionnage, ce qu'ils ont toujours contesté, des peines qui laissaient entrevoir une libération prochaine car la justice iranienne a toujours été soucieuse d'afficher une apparence de légalité au sujet de ces ressortissants étrangers. Reste à savoir quand les deux Français seront de retour sur le territoire. Leurs proches s'inquiétaient récemment de les voir rentrer à bout de souffle.
Venons-en à l'actualité, à l'Assemblée nationale. Marine Le Pen ne lâche pas le morceau. La semaine dernière, le RN a réussi à faire passer un texte pour la première fois à l'Assemblée nationale. Il s'agit d'une résolution qui dénonce les accords franco-algériens de 1968, mais depuis le vote, plus rien. La chef de file des députés Rassemblement national a donc interpellé le Premier ministre lors de la séance des questions orales, lui demandant quelle suite il comptait donner à cette résolution et lui rappelant qu'il avait déclaré il y a quelques jours que le pouvoir était à l'Assemblée.
Monsieur le Premier ministre, je veux croire dans votre sincérité. Et puisque vous avez conditionné la légitimité de votre ministère sur la reconnaissance explicite d'un régime parlementarisé, ma question sera simple. Comment et sous quel délai comptez-vous mettre en application le vote de l'Assemblée nationale qui décide pour la France d'abroger l'accord de 1968 avec l'Algérie ?
Dans sa réponse, Sébastien Lecornu a pris le soin de rappeler que le vote d'une résolution n'avait aucune valeur contraignante et il a écarté une dénonciation des accords franco-algériens.
Je ne crois pas à l'abrogation de cet accord, mais à sa renégociation. Cet accord, à bien des égards, est caduque. Il faut donc désormais que ce début de renégociation démarre le plus vite possible. En tout cas, pas un sujet de politique intérieure, un sujet bilatéral de respect qu'il convient, à mon avis, de traiter avec beaucoup de sang-froid.
Sébastien Lecornu répondant à Marine Le Pen lors des questions orales à l'Assemblée nationale. Officiellement, Emmanuel Macron reste concentré sur les sujets de politique internationale. Mais le chef de l'État s'est invité dans le débat des dernières semaines autour du budget. Il s'en est pris indirectement au groupe de gauche, au Rassemblement national et même à certains élus de son propre camp. Il a alerté sur la hausse des prélèvements votés ces derniers jours, plus 40 milliards d'impôts supplémentaires adoptés en 8 jours, selon Bercy.
Dans un moment où on voit ressurgir des discours qui m'étonnent, mais on ne grandit pas un pays en attaquant ses champions. On peut avoir des débats, ils sont toujours légitimes, ils sont nécessaires dans la vie d'un pays pour avoir une croissance juste, trouver les bons équilibres. On ne rend pas un pays plus heureux quand on empêche ses champions d'aller conquérir de nouveaux marchés.
Emmanuel Macron lors d'un déplacement à Rochefort et La Rochelle. Toujours en métropole, Chahine est sous le coup d'une enquête judiciaire. Ce sont les suites de l'affaire des poupées à caractère pédopornographique vendues sur le site du géant de l'e-commerce. Une publicité dont Chahine se serait bien passé alors que l'ouverture de son premier magasin physique doit avoir lieu la nuit prochaine pour nous à Paris, dans les locaux du BHV. Ouverture qui suscite aussi beaucoup de réticences, voire d'opposition dans le monde du vêtement notamment. Théo Grévin pour Europe 1.
Sur la façade du BHV, de grandes affiches noires annoncent la couleur. Demain, chaque somme déboursée chez Shein sera reversée en bon cadeau, valable dans l'ensemble du grand magasin. Offre commerciale alléchante qui exaspère encore un peu plus les commerçants du quartier.
Ici, on n'a que des produits qui sont fabriqués en France. Des boucles d'oreilles, des bracelets.
Émilie tient une boutique juste en face du BHV.
Eux fabriquent des produits sans aucune dignité humaine, qui font le tour du monde. C'est du prêt à jeter. On a tous une histoire avec le BHV, donc c'est très grave ce qui est en train de se passer.
Et dès demain, Shein proposera ses milliers de références à bas coût au 6e étage du grand magasin parisien, Paris, capitale mondiale de la mode. Mais pour combien de temps, s'interroge Pierre Talamon, président de la Fédération Nationale de l'Habillement.
C'est un bras d'honneur au commerce français. Paris, c'est la capitale de la mode, c'est pas la capitale du consommable jetable. Il y a urgence, on est en guerre économique. Les consommateurs devraient faire attention quand ils achètent.
Des consommateurs qui, malgré toutes ces critiques, plébiscitent ces produits à bas prix. L'an dernier, selon une étude, Shein est devenue l'enseigne de mode où les Français ont le plus dépensé.
Qui succédera à Eric Adams à la mairie de New York? On devrait le savoir dans les heures, voire les minutes qui viennent. Le scrutin est terminé, le dépouillement est en cours. Trois candidats sont en lice. Le républicain Curtis Lewa, ancien gouverneur de New York, le démocrate modéré Andrew Cuomo et Zoran Mamdani. Ce trentenaire, musulman, ouvertement pro-palestinien et socialiste revendiqué, était en tête dans les sondages. Un candidat clivant dont les déclarations ont fait souvent réagir, comme dans cette interview télévisée il y a quelques jours.
En tant que maire, je ferai arrêter Benjamin Netanyahou s'il vient à New York. Les valeurs de notre ville sont en accord avec le droit international.
Et si Zoran Mamdani est élu maire de New York, Donald Trump a d'ores et déjà menacé de couper les fonds fédéraux à la ville. 11h57, la dernière pause de ce journal et on se retrouve pour évoquer toute l'actualité sportive. On parlera d'abord de la défaite du PSG en Ligue des Champions 2-1 face au Bayern Munich.
RRB, pour être au cœur de l'actualité.
La STACH, c'est la marche solidaire contre le cancer. Samedi 8 novembre à Doméa, venez marcher et afficher votre plus belle moustache en soutien aux malades. Vous n'en avez pas? Pas de problème. Un bar à moustache se chargera d'en fournir, même aux femmes. Samedi 8 à Doméa, aidez-nous à soulever des fonds pour l'association des malades du cancer. Animation, restauration, village d'information et l'ose à gagner. L'association compte sur vous. Inscription sur proevents.nc, la STACH.
Entreprise, cabinet juridique, collectivité, vous souhaitez être lu, être vu, confiez vos annonces légales au site internet rrb.nc. Contact annonceslegales@rrb.nc ou au 25 46 46. Tout le sport en trois lettres, RRB.
Infomag, l'actualité sportive, on retrouve Jean-François Baudin.
Et on va commencer avec l'actu du football et cette très mauvaise soirée pour le PSG en Ligue des Champions, Léo Fichou.
Oui, les Parisiens se sont effectivement inclinés 2-1 lors de la quatrième journée de la phase de Ligue. Une défaite à domicile contre le Bayern Munich. Les Bavarois qui, eux, enchaînent une 16e victoire consécutive, toute compétition confondue. La défaite du PSG n'est pas la seule mauvaise nouvelle. Le club de la capitale perd également Achraf Hakimi et Ousmane Dembélé sortis sur blessure. La réaction du coach parisien Luis Enrique après la rencontre.
On a fait des cadeaux très jolis pour l'adversaire. C'est toujours contre un adversaire de ce niveau. Et on a fait des cadeaux dans ces premiers mi-temps et ça a été différent les deuxièmes mi-temps parce qu'on a joué avec un joueur de plus et ça a été différent.
De son côté, Monaco a le sourire. Les joueurs du Rocher se sont imposés 1-0 sur la pelouse de Bodø/Glimt en Norvège. Les Monégasques s'installent provisoirement dans les places qualificatives pour les prochains tours. Dans les autres rencontres, Liverpool est venu à bout du Real Madrid. 1-0. Arsenal continue son sans-faute en dominant le Slavia Prague 3-0. Victoire également de Tottenham 4-0 sur Copenhague et de l'Atlético Madrid 3-1 face à l'Union Saint-Gilloise. Naples a été tenu en échec par l'Eintracht Francfort 0-0. Match nul également entre la Juve et le Sporting Sporting et entre l'Olympiakos et le PSV, un but partout. Demain, on notera que l'Olympique de Marseille accueillera l'Atalanta Bergame à 7h du matin.
Le sport en Calédonie maintenant avec d'abord du squash et les championnats de Nouvelle-Calédonie qui se jouent cette semaine à Dumbéa.
Un programme chargé pour les 41 participants avec des rencontres tous les soirs depuis jeudi dernier et jusqu'aux finales qui sont prévues vendredi soir. Une compétition partagée en 5 groupes de différents niveaux qui reste toujours un moment de partage entre passionnés. Florent Elmokni, joueur et juge arbitre de la compétition.
Une compétition qui est vraiment saine. Par rapport à ce qu'on avait il y a 2 ans, c'est plutôt une bonne réussite. Par rapport à ce qui s'est passé l'an dernier, où on avait eu quelques pertes sur les tournois, et là on a avoir 41, hier soir on a fini à plus de 21h. Ça c'est positif. Vu le nombre de participants et que c'est un championnat, donc on est sûr d'avoir des matchs assez homogènes, c'est dit que c'était assez intéressant de faire des poules, qui a multiplié le nombre de matchs. Au minimum, les joueurs, ils ont 4 matchs. Donc plus on avance, plus les matchs sont serrés. Ben surtout, on a les finales, donc on aura les moments décisifs vendredi pour savoir qui est vainqueur de chaque série.
Et dans la série A, la meilleure des 5 séries, Nicolas Masnet fait une nouvelle fois office de grand favori, sachant que ses principaux adversaires ne sont pas là, nous a expliqué Florent Elmokni.
Il manque 3 des 4 premiers, Gaël Gosse, Nicolas Faure et Laurent Guépy. Le champ a complètement libre, on dira, à Nicolas Masnet pour gagner un 9e titre, je crois. Mais par contre, derrière, c'est quand même assez ouvert. D'ailleurs, on le voit, il y a eu plusieurs matchs en 5 jeux dans les poules. Donc, c'est assez ouvert pour la 2e et la 3e place.
Les championnats de squash de Nouvelle-Calédonie se disputent jusqu'à la fin de la semaine à Dumbéa. Rendez-vous dès 17h ce soir au Dumbéa Squash Club.
Et pour terminer, parlons d'un événement sportif programmé le week-end prochain. Sportif et festif, qu'il s'agit de la Stache, c'est un rendez-vous pour la bonne cause, Michael Duneski.
Une dernière date de l'année concoctée par Pro Events pour évoquer un sujet sérieux, mais dans une atmosphère récréative avant tout, pour soutenir l'Association des malades du cancer. Il s'agit d'une marche solidaire et festive de 5 km sur un parcours mis en place jusqu'au parc de Cutio. La Stache est dédiée plus spécifiquement à la lutte contre le cancer de la prostate, avec sa spécificité, le port de la moustache pour amuser l'ensemble des participants et les déguisements vivement recommander les précisions de Julie Prunet, co-gérante de ProEvents.
On est là pour l'Association des malades du cancer. On travaille l'organisation avec eux, donc ils vont tenir un stand de prévention pour le cancer de la prostate, plus lié aux hommes. On sait que le cancer, plus il est dépisté tôt et plus il est mieux pris en charge, et j'en suis la preuve. Prévention, plus pour tout le monde. Et vous verrez, on peut guérir du cancer. L'info pratique aussi, c'est qu'on va vous offrir un t-shirt qui sera votre dossard. Donc, il sera obligatoire de le porter le jour J. Et plus on aura de moustaches à Cutio, et plus on fera de prévention derrière. Ça sera une atmosphère festive de toute façon, avec toute notre équipe de bénévoles déjantés. Je les connais. Enfin, vraiment, ça vaut le détour. Ça va être vraiment magique. Et je les en remercie.
C'est ouvert à tous. Les premiers départs seront donnés à 16h30. Mais il y aura également un village d'animation à retrouver sur le site au départ de la halle Mimi Castex pour une après-midi et un début de soirée dans la bonne humeur sur un air de carnaval des moustaches.
Nous allons ouvrir le village à 15h. Avant les départs, vous allez avoir de nombreux stands. Donc, on va avoir des danses avec la troupe Toanui. On va avoir la troupe Iva Levos, qui sont des associations de Dumbéa. Ainsi que Morgane, qui va nous présenter ses sculptures avec Eurikaya. Et des manèges, des barbes à papa. On va avoir un bar à moustaches sur site. Donc, même mesdames, on n'a pas tous des moustaches. Donc, on va pouvoir s'en créer. Ensuite, on va faire l'élection de la plus belle moustache, la vraie moustache. Donc chez les garçons, et ensuite on va faire une élection du plus beau déguisement, donc faites marcher votre imagination parce qu'il y a des super lots à gagner. On vous prépare beaucoup de lots au tirage au sort. Encore une fois, ben voilà, on y va avec notre cœur, on fonce, on espère que cet événement portera ses fruits et que tout le monde répondra présent.
Le plein de sourires et surtout de moustaches. Un rendez-vous en partenariat avec RRB. Les inscriptions pour la Stache 2025 sont ouvertes notamment sur le site inlive.nc jusqu'à demain soir minuit.
La fin de ce journal. Infomac se poursuit jusqu'à 13h avec Thierry. Et 13h, vous le savez, ce sera l'heure du rappel des principaux titres de l'actualité. Je vous souhaite une belle après-midi.